CFM, en Tarn-et-Garonne. Le MAG.
Bonjour à toutes et à tous et merci d'être avec nous dans ce MAG où on vous propose une conférence au programme de ce samedi du côté de Cossa Doré collée sur une initiative de l'Université Populaire dans le cadre de son cycle de conférences. Il y en avait une par mois des conférences et là c'est la dernière, ce sera autour des symboles dans l'art, énigmes et sens cachés. Conférence gratuite proposée par Martine de Grande qui est au bout du fil du téléphone. Bonjour Martine.
Bonjour Vanessa, merci de m'accueillir.
Bah avec grand plaisir, hein. Vous êtes passionnée d'art et de musique. C'est avec vous qu'on va faire une sélection d'œuvres. Enfin, vous allez faire une sélection d'œuvres et nous expliquer un petit peu où sont cachés les symboles et comment les décrypter. Alors l'art de base, hein, c'est globalement beaucoup de symboles. Et ça depuis toujours, si on remonte à l'art pariétal. Mais je ne crois pas que ce soit de ça dont vous allez nous parler samedi.
Non, je vais parler évidemment des symboles dans l'art et je vais débuter cette conférence depuis l'Antiquité. Ensuite, nous passerons au Moyen-Âge, bien sûr, à la Renaissance, à l'époque baroque, jusqu'à l'époque moderne et contemporaine. Parce que, si vous voulez, nous avons... il est difficile de comprendre, bien sûr, déjà ce que les artistes ont bien voulu nous transmettre suivant les époques. Et ce qui est intéressant dans les symboles dans l'art, c'est qu'une œuvre peut aussi avoir plusieurs interprétations suivant les époques, c'est ce que je disais. Mais on ne peut pas dire n'importe quoi, il faut s'appuyer sur des éléments concrets dans l'image. Par exemple, au Moyen-Âge, une colombe, elle représentait plutôt l'Esprit Saint, alors qu'à l'époque moderne, elle représente la paix, vous voyez ce que je veux dire. Une lumière, elle peut s'imposer l'espoir, ou une horloge, elle peut évoquer le temps qui passe. Mais leur signification, elle change bien évidemment, selon les artistes et selon l'époque. Mais pour bien comprendre et bien décrypter, je veux dire, les œuvres d'art, nous avons besoin de codes, mais surtout nous avons deux clés. Et ces clés, ce sont les symboles et les allégories. Et ces deux notions, elles peuvent parfois être proches, elles sont proches d'ailleurs, mais elles sont pourtant distinctes. Alors si on commence par le symbole ne donne pas d'explication directe. Il suggère plutôt une idée qui fait appel à notre imagination. Et cette idée, elle est évoquée par une simple image. Par exemple, je vais prendre un exemple simple. L'arbre, il a toujours été un symbole riche et ancien de par son feuillage qui meurt. Et le feuillage, il renaît. Donc, il représente la vie et le cycle des saisons. Et dans l'art, l'arbre est aussi un motif puissant. Chaque espèce porte sa propre symbolique. Mais après le symbole, nous avons aussi l'allégorie. Et l'allégorie, elle consiste, elle, à représenter plutôt une idée abstraite par une image concrète. Alors, par exemple, l'allégorie de la justice, elle est souvent représentée par une femme aux yeux bandés. Je vous propose des exemples très simples. Hein. Donc la justice par une femme aux yeux bandés, avec les deux plateaux qui symbolisent l'équilibre et l'ordre. On pèse le pour, le contre, distinguer le juste de l'injuste. Et lors de cette conférence, mon objectif, il est surtout de montrer que derrière chaque tableau se cache une énigme, un message, une histoire. Et qu'avec ces deux clés, chacun peut apprendre donc à voir autrement et à apprécier une œuvre en profondeur.
Alors justement, vous parlez de symboles et d'allégories, mais ce sont toujours les mêmes. Hein. Vous parlez de la justice, je pense aux sabliers, oui, aux crânes. En fait, il suffit de les connaître, ouais, en fait, de les énumérer, de les apprendre par cœur. Et ça y est, on comprend tout.
Ben non, justement, parce que suivant les époques, comme je vous le disais, tout est différent. Par exemple, si je prends, si je remonte à l'Antiquité, j'ai choisi une œuvre de Nébamon chassant et pêchant dans le marais. Alors c'est une, il s'agit d'une fresque qui a été retrouvée dans la tombe de Nébamon. C'est un scribe hein, sous la 18e dynastie. Et on pourrait penser qu'on ne voit qu'une simple scène de chasse, vous voyez. Alors qu'elle illustre une idée centrale dans la pensée égyptienne, c'est-à-dire l'équilibre entre l'homme et la nature. Et, la et surtout, parce qu'à l'époque c'était souvent ça, la promesse d'une renaissance éternelle dans l'au-delà. Vous voyez, c'est pas forcément ce que l'on voit dans l'image, mais on a une autre interprétation qui fait.
C'est beaucoup de travail historique, du coup, ça relève.
Ah oui, c'est vraiment très, 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 très important. Et lorsque l'on passe au Moyen-Âge, c'est encore différent. L'art, il est marqué profondément par la religion. Et tout ça pour transmettre la foi. Il fallait éduquer les fidèles qui étaient souvent analphabètes. Par exemple, on avait l'agneau qui symbolisait le Christ et le sacrifice, ainsi que le livre dans les mains d'un saint qui renvoie toujours à la connaissance divine. Mais moi, j'ai sélectionné un tableau pour cette période du Moyen-Âge qui j'ai trouvé incroyable. C'est le tableau de Jan van Eyck, c'est un peintre allemand qui a peint les époux à Morfini. C'est une œuvre tout à fait intime, mystique, mais très énigmatique. Et d'ailleurs, vous voyez, les historiens de l'art n'ont toujours pas donné d'interprétation définitive. Cela reste encore un mystère sur l'identité de ces deux époux.
Alors, on parle de oui. Ceux qui se tiennent la main là, avec la dame en robe verte, c'est avec ça. Le miroir derrière, où l'artiste se
exactement.
Représente lui-même d'ailleurs.
Oui. Non, c'est pour ça. Enfin, on ne sait pas trop parce que dans le miroir où l'on il y a un petit miroir convexe au milieu du tableau et il y a on est pratiquement sûr que c'est Jan van Eyck qui est le principal témoin, si vous voulez, de ce mariage, puisqu'il a laissé une signature. Il a laissé une signature qui est latine, qui est écrite en latin, et qui est. On le voit en tout petit, hein, si vous, il faut vraiment faire un plan rapproché pour le voir. Il est noté Jan van Eyck était ici. Vous voyez ? C'est très particulier hein. ce tableau, ça m'a beaucoup j'ai beaucoup aimé de travailler toute cette description. Pour la même période, je présente aussi un autre tableau, Vénus, Mars et Cupidon, du peintre italien Piero di Cosimo. C'est une scène mythologique, alors je vais pas décrire hein, puisque sinon je vais pas faire la conférence aujourd'hui. Et c'est une scène mythologique où on rencontre les forces de l'amour et de la guerre par des descriptions bien précises.
Alors si les symboles ne sont donc jamais les mêmes en fonction de la période et de l'endroit où l'œuvre a été peinte ou réalisée, le sens de ces symboles sont un peu tout le temps les mêmes. C'est un peu tout le temps la religion, l'amour, la mort.
Ah non, vous allez voir.
Contredisez-moi, avec la Renaissance, s'il vous plaît.
Au fil du temps, les symboles changent de sens. Avec la Renaissance, par exemple. Ce regard sur l'art, il va changer. C'est une période de grande découverte, avec beaucoup d'observations, de réflexions, et des artistes comme Léonard de Vinci ou Botticelli, ils sont éduqués, ils s'intéressent à la philosophie, aux sciences. C'est une période qui est tout à fait exceptionnelle pour les grandes découvertes. Et d'ailleurs, j'ai choisi encore un tableau que je trouve tout à fait fascinant. Dans l'histoire de l'art, ce sont les ambassadeurs peints par Hans Holbein le Jeune, qui était un peintre bavarois. Et dans ce tableau, il y a un condensé spectaculaire de savoir, mais aussi de politique, d'histoire, de religion, de science, et tout cela dans le même tableau. Alors, il y a une petite référence à la religion, mais vraiment insignifiante, vous voyez. C'est une véritable énigme visuelle, ce tableau. Voilà. Bon, après, pour quelque chose un autre peintre, alors je ne sais pas s'il est très connu, les ambassadeurs, mais en tous les cas, je présente aussi d'autres peintres un peu plus connus, comme Archimboldo, avec les quatre saisons, ça c'est un petit peu plus facile. Ce sont des allégories, c'est des allégories, non, je me trompe, ce sont les quatre saisons vraiment qui sont représentées de façon très, très particulière, avec des végétaux, des fleurs, des fruits, des...
Ce sont des portraits, c'est ça, des portraits, ouais. Des portraits potagers, quoi.
C'est ça, suivant les saisons. Mm. Un autre... Ah oui, j'ai pensé aussi à l'allégorie de la fortune par Ferrare Dossi, c'est un peintre italien, ça aussi c'est très intéressant. Et si vous voulez, je passe à l'époque baroque. C'est, vous voyez, vous allez voir que c'est encore différent, parce que l'art à l'époque baroque, il devient plus expressif, plus théâtral. Là, on joue sur les contrastes des émotions et le spectaculaire. Et les symboles, ils sont très très présents. Hein. Chez Caravage, par exemple, la lumière, elle dépasse sa fonction première, elle devient un symbole tout à fait spirituel. Mais là, non, moi, je vais pas présenter un Caravage, je vais présenter le tableau de Georges de la Tour, la diseuse de Bonaventure. Je ne sais pas si ça vous parle. Ce tableau, c'est une... Alors là, c'est pareil, c'est une véritable leçon de morale. Là, c'est la morale qui est en jeu. Car il dénonce la crédulité, la vanité, la superficialité. Le peintre nous met en garde contre ceux qui veulent nous manipuler. Et d'ailleurs, vous voyez, aujourd'hui, c'est un tableau qui est d'actualité, parce qu'on est vraiment... souvent manipulé. Et toujours à l'époque baroque, je propose aussi de décrypter les cinq sens et les quatre éléments d'un peintre français, Jacques Linard. Et là, là par contre, on y trouve beaucoup d'objets. C'est une forme avec les quatre éléments et les cinq sens, c'est une forme de représentation complète de l'interdépendance entre l'homme, la nature et l'univers.
C'est à travers cette sélection d'œuvres là que vous venez de nous présenter et d'autres encore que vous allez décrypter les symboles présents dans tous ces tableaux, analyser leur signification. Les symboles dans l'art, énigme et sens caché, c'est la conférence que vous allez proposer là pour ce samedi du côté de Caussade, grâce à une invitation de l'Université Populaire. Restez avec nous dans ce mag, on continue à en parler, mais juste après la musique.
Des baisers brûlés.
BFM Kélus, le mag.
De retour dans ce mag, on est en train de vous proposer une conférence pour ce samedi, une conférence initiée par l'Université populaire de Caussade. Ce sera donc à Caussade, au Récollet, à 16h30, sur la thématique des symboles dans l'air, dans l'art, oula, énigmes et sens cachés. Vous êtes passionnée d'art et de musique, Martine de Grande. Vous venez de nous proposer une sélection non exhaustive des tableaux que vous allez utiliser pour nous parler donc de toute la symbolique présente dans ces œuvres. Est-ce que vous trouvez qu'il y a une forme de concertation ou d'évolution? Peut-être qu'il y a une ligne éditoriale dans les symboles utilisés dans les âges et les endroits depuis l'Antiquité. Vous partez de l'Antiquité pour proposer cette conférence, ou est-ce que chaque artiste utilise ses propres codes? Le but, c'est quand même qu'ils puissent être compris du public, ces symboles.
Oui. Alors, effectivement, les artistes, ils n'utilisent pas toujours les mêmes codes, mais il y a quand même toujours des codes de référence. Hein, que nous avons cité précédemment. Mais je pense, par exemple, à l'époque, puisque nous avons déjà parlé du Moyen-Âge, de la Renaissance baroque, par exemple, à l'époque moderne et contemporaine, je pense à Picasso. Picasso, avec Guernica, lui, il n'utilise pas forcément les mêmes codes par rapport au Moyen-Âge. Il utilise des figures puissantes pour évoquer la violence et la guerre, vous voyez. Même sans tout comprendre, on ressent immédiatement une émotion très forte. Vous voyez?
Est-ce que c'est vraiment des symboles? Est-ce qu'on peut...
Oui, ils sont là, à l'époque moderne, les idées, elles évoluent de toute façon. Les formes artistiques, on le voit, elles se transforment. Et les symboles sont souvent plus simples et prennent une dimension plus personnelle, mais tout en conservant une portée universelle. Il faut que ça parle à tout le monde.
Oui, tout en étant caché. Hein. Le but, c'est quand même qu'on puisse se creuser la tête devant le tableau en disant « Mais pourquoi est-ce que je ressens ça ?»
Ouais. Mais c'est à nous à déchiffrer. C'est un peu, si vous voulez, un jeu de piste. Vous voyez, pour comprendre vraiment une œuvre, il faut vraiment mener une enquête. On doit se demander d'abord quand elle a été créée ou dans quel contexte. Et je pense que depuis le Moyen-Âge, beaucoup d'œuvres, nous l'avons vu, étaient liées à la religion. Et alors que dans les mouvements plus récents, et d'ailleurs, si on parle du surréalisme avec Dali, des artistes, ils représentent plutôt les rêves ou l'imaginaire. J'en parlerai aussi de Dali. Mmh. Vous voyez, dans ma présentation.
Est-ce qu'il existe quelque part une sorte de dictionnaire des symboles et des sens cachés dans l'art?
Oh, il n'y a pas un dictionnaire particulier. Il y a énormément de livres qui pourront renseigner les auditeurs pour approfondir leur connaissance. Moi, j'ai tout un tas. Oui, moi, j'ai des dictionnaires, bien sûr. Enfin, on peut pas appeler ça des dictionnaires, mais il n'y a pas un dictionnaire en particulier.
Il n'y a pas une définition précise. Hein. Et, voilà. Et comment vous avez articulé un petit peu toute cette conférence? Comment est-ce que vous avez pu compiler de la donnée alors?
Ben justement, j'ai des livres sur la nature et des symboles. J'ai des livres sur l'histoire de l'art. J'ai puisé mes sources un petit peu partout sur Internet, sur le site de la Bibliothèque nationale de France, où il y a de très bonnes références. Voilà, j'ai beaucoup de livres sur lesquels je me suis appuyée, tout en ce sont des codes que je connaissais un peu, puisque j'ai passé peut-être une quinzaine d'années à prendre des cours d'histoire de l'art, dont j'avais encore quelques notions, bien que je ne revendique pas de parcours universitaire, ça je le précise, mais c'est une simple légitimité, si vous voulez, d'un parcours le cours d'histoire de l'art, parce que j'ai eu la chance de passer une quarantaine d'années à Paris, où j'ai pu visiter le Louvre, je dirais pas au quotidien, mais bon, c'est musée d'Orsay, les grands musées à travers la France. Donc, mais ce qui m'avait justement particulièrement touché, c'était pas seulement la beauté des œuvres exposées, mais c'était surtout ces histoires qu'elle raconte. Et j'ai très vite ressenti le besoin d'aller au-delà du simple regard. J'ai aussi cherché à comprendre ces messages que les artistes ont souhaité nous transmettre par des cours que j'ai pris un peu. Je suis allée au Louvre et j'ai eu la chance d'avoir une amie qui était aussi historienne de l'art qui m'a beaucoup apporté. Donc toutes ces informations m'ont permis, si vous voulez, de travailler sur cette thématique.
La thématique, c'est les symboles dans l'art, mais nous ne parlons que de peinture.
Ah oui, alors, oui, là je présenterai que la peinture, sauf petite surprise à la fin, parce qu'effectivement, les symboles, on les trouve aussi dans la poésie, dans la musique, et il y aura une petite surprise. Bon, je vais la dévoiler, mais ce sera à la fin de la conférence, où je vais décrypter rapidement, parce qu'on n'a pas trop le temps lors de la conférence, c'est la danse macabre de Saint-Saëns. Voilà.
Ah, et alors, pour en savoir plus...
Là, je ne veux pas trop dévoiler. Non, là, je ne dévoile pas. Tout le monde... Bon, ben, c'est une œuvre qui est quand même assez connue, mais elle est très particulière. Voilà, je n'en dirai pas plus aujourd'hui.
Les symboles dans l'art, énigmes et sens cachés, pour en savoir plus. Donc ce samedi à 16h30 au Récollet de Caussade. Comme toutes les conférences initiées par l'Université populaire de Caussade, elles sont gratuites. Et c'est la dernière de la saison. C'est vous qui allez la proposer, Martine de Grande. Vous êtes passionnée d'art et de musique. Et c'est vous qu'on retrouvera donc à 16h30 au Récollet ce samedi. Je vous laisse le mot de la fin.
Le mot de la fin, il y en a plusieurs. Hein. J'ai un mot, c'est un peu difficile. Non, moi, je dirais que il faut prendre le. Lorsqu'on est face à une œuvre d'art, il faut prendre le temps de l'observer, de s'interroger. Et mon souhait, c'est que chaque auditeur puisse repartir avec un regard plus curieux, plus libre, et peut-être avec l'envie de pousser à nouveau les portes des musées avec un œil tout neuf. Voilà ce que je dirais.
Ça, on le souhaite à tout le monde. Merci beaucoup, Martine Legrand.
Merci.
Et merci à tous de nous avoir suivis pour ce MAG qui sera rediffusé comme d'habitude à 18h et à 21h. Et comme de coutume, vous pourrez le réentendre en podcast sur le site cfmradio.fr. La suite, ce sera depuis CFM Montauban avec Rémi. Ce sera après les infos.